Cube Radio.
It's my life, it's now or never.
Ça, c'est non.
Quoi?
Ça, c'est non.
Qu'est-ce que t'as comme jambon Jovi?
Le jambon, c'est non.
Bonjour tout le monde, ici André Péloquin, chef de contenu pour PES sur Start, et bienvenue à J'explique, le balado grand public qui veut expliquer la culture geek et gaming à monsieur et madame tout le monde, un sujet à la fois. Et cette semaine, je suis en compagnie de ma collègue Christine Lemousse. Allô Christine!
Allô André!
Et ensemble, on va vous parler du jeu vidéo le plus populaire de l'histoire du genre. Non! Il n'est pas question ici de Super Mario Bros. Oh que non, mais bien de Tetris!
Yes!
Après avoir abordé des sujets plus contemporains comme Fortnite et la plateforme Twitch, J'explique s'intéresse aujourd'hui à un classique paru en 1984. Imaginez, en 2017, on comptait plus de 170 millions d'exemplaires écoulés ou téléchargés dans le monde depuis la création du jeu en 1984. Ça, là, ça fait que Tetris est le jeu le plus vendu de l'histoire. Aussi à noter, Tetris est aujourd'hui disponible sur plus d'une soixantaine de plateformes. Genre, il manque juste votre micro-ondes. Et a inspiré plusieurs volets de la culture populaire. On ne compte plus le nombre de reprises de sa musique, par exemple, et on peut voir les tétrominoses sur moult vêtements maintenant, et ça ne nous surprend plus. Et il y a même le monde universitaire qui s'est inspiré du jeu pour plusieurs sujets de recherche.
À ce sujet, ici même au Québec, une équipe de recherche de l'Université McGill travaillait en 2013 sur une nouvelle approche thérapeutique pour les personnes souffrant d'amblyopie. Ce qui veut dire le syndrome de l'œil paresseux.
Ah, d'accord.
Oui.
Le lazy eye, comme
le
on
lazy
dit en anglais.
Eye, à grands coups de parties de Tetris.
Fait que pour les gens qui disent comme, ben là, les jeux vidéo, ça sert à rien. Non, ça peut aider à soulager les personnes qui souffrent d'amblyopie.
Mm-hmm.
Bravo à eux. Bien qu'une partie de Tetris n'est pas très riche en explosions ou en drames humains.
Wow, ça paraît que t'as pas joué contre moi.
Mon Dieu, écoute, je m'excuse, là, Christine, mais vraiment, gagner contre moi à Tetris, c'est vraiment pas un exploit, là. Je suis une moquette, tu peux passer sur moi. Je suis à ce point mauvais à Tetris.
OK.
Fait que, mais tu peux garder ta bravade pour un autre champion, une autre championne du monde en Tetris.
Mais j'aime ça.
Désolé.
Moi.
Mais pour revenir, par exemple, à l'histoire du jeu, là. L'histoire derrière la création de Tetris, elle tient presque du film d'action, tant on y compte de rebondissements. C'est incroyable.
Michael Bay Explosion.
Sérieusement, mesdames et messieurs, attachez votre tuque. Voici l'histoire de Tetris. Juin 1984, l'ingénieur en informatique Alexei Pajitnov désire tester les limites du matériel informatique de l'Académie des sciences de l'URSS où il travaille en programmant un jeu vidéo inspiré du jeu de société Pantominos.
Oh, wow. T'es-tu en train de dire que Tetris est un remake d'un jeu de société?
Oui et non, Christine, parce que la plus grande particularité du jeu vidéo est arrivée par accident. Place au théâtre!
Voyons, Alexei, qu'est-ce qui se passe?
Mon jeu est plate. C'est bien le fun de remplir des lignes, mais ça vient obstruer la surface de jeu à un moment donné. Là. On se tanne rapidement.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Je sais pas. Là. Peut-être les lignes complétées, au lieu d'être juste sur la planche de jeu, ils pourraient peut-être juste disparaître. Quelques jours plus tard.
Alexei, ton idée de retirer les lignes complétées, c'est du génie! On n'arrête pas de jouer à ton jeu depuis, c'est pire que du crack!
Oh, mais est-ce que c'est un compliment, ça?
Comme j'ai jamais fait de drogue dure, je saurais dire.
Dites non aux drogues, les jeunes!
En fait, Tetris à l'époque tenait plus du virus que du crack, car les collègues de Pajitnov, comme Victor Briabrim, par exemple, se mettent à faire circuler le jeu à l'extérieur des murs de l'Académie des sciences, voire même du pays.
Est-ce que l'ingénieur se réjouissait de la montée de la popularité du jeu?
Oui et non. Il faut dire qu'à l'époque, l'ingénieur de formation, Alexei Pajitnov, n'avait aucune connaissance du monde des affaires. De plus, ses patrons à l'académie n'auraient pas apprécié que leur employé se mette à vendre un jeu vidéo conçu au sein de l'établissement qu'à des fins de test. Et finalement, la propriété intellectuelle n'existait pas en URSS à l'époque. De plus, les chercheurs soviétiques ne pouvaient vendre leurs recherches et autres créations scientifiques. Bref, craignant des représailles du régime soviétique face au succès international de sa création, Pajitnov s'est plutôt fait discret pendant quelques années, laissant d'autres entreprises informatiques adapter son concept et faire des projets faramineux avec sa création. Parmi les gens qui se sont graissés la patte, on retrouve Robert Stein, un agent international de vente de logiciels pour une société londonienne. Ça, là, mesdames et messieurs, c'est le vilain de notre histoire. Lors d'un voyage en Hongrie en 1986, Stein tombe sur un exemplaire de Tetris et constate tout le potentiel du jeu. Il retrace Pajitnov et lui envoie un fax pour lui acheter les droits. Pajitnov se dit alors intéressé, mais sans plus. Plutôt que de poursuivre les démarches, de talonner l'ingénieur, Stein visite plutôt des studios de jeux vidéo américains et européens pour créer des nouvelles versions de Tetris avec son fax comme preuve que « Hey, j'ai des droits !» Stein, qui, rappelons-le, n'a qu'un fax en main là, en ce moment, vend les droits d'un jeu qu'il ne possède pas. En plus, il ne verse pas encore d'argent lié à ses ententes à Pajitnov.
Bouh!
En effet, Christine, c'est en 1988 que Stein et l'Académie vont s'entendre, finalement, pour une période de 10 ans.
Il s'entend pas avec le concepteur du jeu?
Non, parce que les créations des chercheurs de l'Académie reviennent à l'institution. Ils reviennent à l'Académie, finalement.
Donc, Pajitnov doit être vraiment en colère?
Même pas. Dans le livre « La saga des jeux vidéo », on rapporte qu'il aurait dit que « le fait que tant d'argent apprécie mon jeu me suffit amplement ».
Et qu'est-ce qui se passe avec Stein pendant ce temps-là?
Oh my God, qu'il s'enfonce! Les démarches de Stein font en sorte que plus d'une dizaine de studios de jeux vidéo à travers le monde croient avoir les droits sur Tetris, alors que en fait, Stein a signé une entente que pour la version sur ordinateur du jeu. Le succès est tel que Nintendo veut adapter le jeu pour sa fameuse console portable, le Game Boy. Entre-temps, l'URSS lance l'Electro-Norg Technica, une organisation chargée de gérer les importations et exportations informatiques. Stein, lui, est donc coincé entre le géant japonais et la nouvelle organisation soviétique. Nintendo, via le développeur de jeux vidéo et entrepreneur Hank Rogers, s'entendra avec Electro-Norg Technica et en profitera également pour inviter Atari, un de ses rivaux, à cesser la production de cartouches Tetris. Hank Rogers, en passant, c'est le héros de notre histoire. En effet, Christine, et la missive de Nintendo à Atari va mener à une bataille juridique entre les deux entreprises qui sera finalement gagnée par Nintendo, évidemment. Et celle-ci fera également en sorte qu'on va commencer à connaître Pajitnov à l'extérieur de l'URSS auprès du grand public. Place au théâtre!
Bienvenue aux États-Unis, Monsieur Pajitnov.
Ah, merci, merci.
Vous avez vraiment pas du tout d'accent, hein?
Ouais, mais ça serait un peu raciste de caricaturer l'accent russe. Alors, on va laisser ça ainsi, là, si vous voulez bien. Merci.
C'est vrai que vous n'avez pas encore touché d'argent sur la vente d'exemplaires de votre jeu?
Mais c'est bien vrai, ça fait déjà 6 ans et je n'ai toujours pas fait de profit avec.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes aux États-Unis?
Me venger, moi! En effet, en 1991, l'ingénieur et un de ses collègues de l'Académie des sciences émigrent aux États-Unis pour travailler au sein de l'industrie des jeux vidéo du pays. En 1996, l'entente entre Stein et l'Académie ne tient plus. Hank Rogers refait surface.
Oh.
Notre héros. Et fait en sorte que Pajitnov retrouve ses droits d'auteur originaux, mais ne touchera pas d'argent de l'Académie. Il fondera alors The Tetris Company, une entreprise qui gère les droits du fameux jeu sur toutes les plateformes après l'expiration des ententes précédentes. Enfin, le créateur du jeu commence à toucher des sous liés à la vente d'exemplaires et d'objets dérivés partout à travers le monde. Il en profite également pour faire éliminer les clones illégaux du jeu. La patience du gars a ses limites, tu sais. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Tetris, qui se termine quand même bien. Écoute, on a un héros, on a un vilain, et on a un monsieur qui, après des années avoir été floué, touche finalement des bidous.
J'ai une larme.
Ce qui nous mène au volet un peu jasette de Jeux Explique. Christine, écoute, t'es une gamer.
Ouais.
C'est quoi ta relation que t'as avec Tetris?
Une relation amour-amour.
Ah oui, le jeu t'aime aussi?
Non. Okay. En fait, c'est une relation haine-amour. Dans le fond, le jeu m'aime beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup le jeu, mais je l'aime pas en même temps parce que rendu au niveau 5, mm-hmm. je me fais pétard à gueule.
Ah, j'imagine, oui, oui. Et comment t'as découvert ce jeu-là, toi?
J'ai reçu une Game Boy de ma maman.
Chanceuse.
Que je me suis fait voler, malheureusement.
Mais voyons, par ta mère?
Non.
OK. Salue, d'ailleurs.
Oui.
Bonjour, Christina.
OK. Oui, d'ailleurs, ma maman a le même nom que moi. Mais ouais, c'était une Game Boy. D'ailleurs, je me rappelle encore de la Game Boy. C'était une Play It Loud jaune avec les boutons noirs.
Ouh!
Et bien sûr, avec la Game Boy, j'avais reçu Kirby et j'avais le Tetris qui venait avec la Game Boy dans le temps.
Bien sûr.
Alors, ce jeu-là, je l'ai dévoré. Je l'ai adoré, j'ai vraiment trippé ma vie. Je me suis fait voler la Game Boy. Oh. Puis, quelques années plus tard, comme fast forward, il y a peut-être un an ou deux, ma meilleure amie m'écrit puis me dit, écoute, j'ai une Game Boy à donner.
Ben voyons donc.
Tu la veux-tu? Je suis comme, oui. Puis, je sais qu'elle prend soin de ses appareils et tout. Quand j'ai retrouvé la Game Boy, dans cette Game Boy-là, il y avait plusieurs jeux, dont Tetris, qui était d'ailleurs toute neuve et tout, là. Et dans le sac, il y avait une feuille de score que son père avait faite. Son père, d'ailleurs, encore vivant, mais son père jouait à Tetris puis il gardait ses scores.
Ah, oh, c'est cute!
Puis il avait encore dedans. C'est ce genre de relation-là qui a fait que le Game Boy était souvent un jeu prisé par les papas, je trouve, là, parce que mon chum aussi avait la même histoire. Son père aussi jouait au Game Boy puis à Tetris. Puis à Noël, il y a 2 ans, il a acheté une Game Boy puis il était triste.
Ah, oh, c'est magnifique. Et as-tu été capable de battre des scores du père?
Non.
Ah, mon Dieu, c'est un papa fort à Tetris, là.
Oui.
OK, en plus. C'est très, très drôle parce que moi aussi, j'ai une histoire de père.
Pour vrai?
Oui, à vous raconter. Tetris. Dans la famille Péloquin, on a découvert Tetris via l'incarnation sur la NES, la Nintendo Entertainment System.
OK, mais quelle cassette?
La 110 jeux.
Oh! Oui, OK, même pas la Tengen, là.
Non. Mon père avait acheté une cassette 110 jeux parce qu'il disait, ah, je vais en avoir pour mon argent. Et ça, finalement, c'est comme, voyons, c'est juste des jeux de... jeu d'action puis de violence. Finalement, il jouait au golf et à Tetris qu'il a découvert. Et c'est devenu une passion pour lui, vraiment. Après Tetris, il s'est mis à Dr. Mario et vraiment plein de puzzles du genre Dr. Robotnik, Mean Bean Machine. C'est parce que c'est ça aussi l'héritage de Tetris, en fait. Après ça, plusieurs jeux de puzzles ont vraiment suivi cette formule-là très colorée. Mais pour revenir à l'histoire.
Ouais.
OK. Il y a des années de ça, je fréquentais une autre jeune fille qui se disait, elle aussi, championne de Tetris, puis de Dr. Mario. Et moi, j'ai comme, hey, c'est drôle, mon père aussi a le même cheminement que toi, il a vraiment beaucoup aimé Tetris, il est vraiment bon, et puis finalement, il a passé à Dr. Mario. Lors d'une visite chez mon père, j'ai comme, hey, je suis entouré de mes deux champions et championnes de Dr. Mario préférés. Voudriez-vous vous affronter? Open et les deux se sentant vraiment très frondeurs. Comme, ah, pourquoi pas, ça va être facile, blablabla. Premier match, OK, et vraiment, ça va bien. Tu sais, je veux dire, les deux s'apprivoisent et finalement, plus ça va, OK, et plus vraiment les commentaires, les gags et tout ça s'estompent. Oh. Et tout ce qu'on commence à entendre, en fait, dans le salon, c'est ça. C'est vraiment les bruits des touches. Il y a une certaine nervosité dans l'air en ce moment. Vraiment, on peut découper ça au couteau. Plus personne ne se parle, tout le monde est rivé à l'écran. Et moi, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je viens de faire? Premier match, c'est ma copine qui gagne.
Oh!
Silence. Là, j'étais comme, ben là, vous pourriez en faire un autre, peut-être un meilleur de trois. Là, c'est le premier match pour se réchauffer.
T'es bon là-dedans,
hein.
Toi.
Oh non. L'histoire va te le dire, Christine, que je suis très mauvais là-dedans. Deuxième match, et puis c'est ça. Là, on se confond, on excuse pour la victoire, la défaite et tout ça. On recommence un peu à se baver amicalement, parce qu'après tout, tu sais, je veux dire, c'est sa belle-fille, c'est mon père, patati patata. Il y a un triangle de relations quand même fort apprécié là-dedans. Et c'est ça, après quelques minutes, à force que les tétrominos tombent de plus en plus vite et que les lignes s'empilent et que les Tetris se font et se défont parce que des fois, avec la rapidité, tu tasses ta barre un peu trop vite puis tu manques la coche.
Oh my God, ouais.
Le bruit recommence. T'entends aussi une certaine respiration.
Ça, c'était ton père.
Les deux. Et finalement, après un deuxième match, le score est 1-1. Et là, moi, de leur répondre, comme, hey, est-ce qu'on fait un troisième match pour savoir qui est le dégagnant entre vous deux?
Hey, t'es bon là-dedans.
Les deux refusent. Et on a un souper ensuite. Et pendant quelques minutes, c'est un peu awkward parce que l'un et l'autre est comme « J'ai trouvé mon égal. J'ai trouvé la personne qui pourrait me détruire à Dr. Mario.
Oh my
Je
God.
Ne suis qu'un et une mortelle. »
Oh!
Fait que là, maintenant, mon père est décédé et je ne suis plus avec cette fille-là. Alors, ce malaise est parti. Mais c'est ça qui est drôle, c'est un jeu quand même, c'est un puzzle qui, en théorie, on peut jouer ad vitam aeternam, mais c'est pas vrai, à un moment donné, je veux dire, le jeu se termine, on va manquer des moves qui vont faire en sorte...
Ouais, ou on termine vraiment le jeu, puis la fusée à part, tu sais.
Ouais, OK, ouais, mais tu sais, on s'entend que, tu sais, en mode, tu sais, éternel, tu vas te casser la gueule anyway.
Ouais.
Et ce qui est le fun aussi, c'est que Tetris, c'est un puzzle, donc il n'y a aucune trame narrative, outre le fait que tu peux le terminer après un certain pointage, mais c'est nous qui construisons les histoires autour. C'est nous, avec nos soirées, qui construisons autour de Tetris.
C'est donc bien beau ce que tu viens de dire là.
Merci beaucoup. Merci
Mais voyons!
Beaucoup. Et même aujourd'hui, Christine, là, on a fait l'histoire, on a retracé l'histoire de Tetris jusqu'à tout récemment, mais le livre continue de s'écrire. Juste cette année, on lançait une nouvelle version de Tetris qui est maintenant dans le monde de la réalité virtuelle. Là. Ça arrête pas, Tetris. Là. C'est un feu roulant.
Ça arrêtera jamais, je pense, en fait. Là. Je me rappelle que j'ai acheté Tetris sur l'iPod, j'ai acheté Tetris sur la Wii, j'ai acheté Tetris sur PS3. Je vais l'acheter probablement sur la Switch qui va sortir, puis je jouais en ligne contre des gens, des Japonais bien sûr, qui sont très forts d'ailleurs.
Ah okay. Oui, OK.
Mais justement, on jouait à des Tetris de party. Durant un party, il y avait des gens, on se ramassait 4-5 autour de la télévision, puis on jouait à Tetris. Là. Mais c'est tellement ancré dans notre culture qu'il va toujours en avoir.
Ah oui,
toujours.
On est rendu vraiment... Tu sais, c'est événementiel. C'est un peu comme Electronic Arts avec la série NHL ou Maiden. Je veux dire, on s'attend qu'à chaque année, on va avoir une nouvelle édition de ces jeux-là avec quelques améliorations ou pas. C'est un peu la même affaire avec Tetris pour le monde du puzzle, en fait.
Puis, d'ailleurs, je pense que je vais être Tetris, dès qu'ils vont annoncer comme le dernier Tetris, puis il n'y en aura plus jamais.
Il n'y aura jamais de fin à Tetris. Voyons, de quoi tu parles?
J'espère que non.
Mais non, jamais. Parce que Tetris n'est non seulement ancré dans l'industrie des jeux vidéo, mais aussi dans notre culture populaire. Maintenant, je vous mets au défi, vraiment, allez sur YouTube et tapez genre Tetris Cover. Vous allez trouver des reprises, des chansons de Tetris qui est du folk traditionnel russe. Là. Je crois que la chanson la plus connue, c'est Kobo et Beneiki, un truc du genre. Comme Il y a des reprises en ska, il y a des reprises en métal, sûrement que ça a été utilisé à quelque part comme beat pour un rappeur. Ça a été repris en rock, une version à la batterie. On se tanne pas, vraiment, c'est cyclique, Tetris, là, et dans tous les sens du terme.
Je tiens juste à mettre une note très personnelle. Il fallait que tu plugues le ska.
Tu peux pas empêcher un cœur d'aimer, Christine. Tu peux pas empêcher un cœur d'aimer. Moi, là-dessus, chers auditeurs, je vous invite à nous contacter. Écrivez-nous à paysurstart@quebecormedia.com. On veut entendre vos histoires de Tetris. C'est... J'imagine que vous aussi, vous avez des papas qui jouaient sur la Game Boy, sur la salle de bain, ou peut-être que vous l'avez en ce moment sur votre téléphone et vous avez des scores que vous voulez partager et crier sur. Peut-être que vous êtes un champion aussi ou une championne, puis vous voulez, lancer un défi à quelqu'un. Parlez-nous de Tetris.
Moi, je veux trouver, j'aimerais ça, trouver le champion caché de Tetris.
Et voilà.
On pourrait organiser un championnat de Tetris.
Ça serait, je suis sûr que ça pognerait en plus.
Oh my God,
À ce sujet, d'ailleurs, je vous recommande, mesdames et messieurs, un documentaire. Le titre, vraiment, juste le titre est délicieux. Ecstasy of Order, l'extase de l'ordre. Et c'est vraiment un documentaire sur les fans de Tetris.
Oh, génial, génial.
Je crois que ça s'achète difficilement.
Mais ça se trouve facilement sur Internet, si vous voulez juste le visionner. Là.
Et c'est ce qui met un terme à notre épisode de J'explique de ce mois-ci. Christine, comme toujours, merci beaucoup de m'avoir épaulé dans cette démarche-là.
Ben merci de m'avoir invité et m'avoir fait faire des voix.
Ben ça fait plaisir. Écoutez, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est une idée de... J'explique, bien que c'est moi qui anime, ce J'explique-là, c'est une idée de Christine
Lemos.
Non,
en fait, même pas.
Ah non?
C'est une idée de notre réalisateur.
Ah oui, c'est Philippe?
C'est Philippe qui nous a donné l'idée de Tetris.
Mon Dieu, Philippe, je m'excuse, j'ai vraiment mal compris l'histoire.
Mais c'est pas grave. C'est encore plus cool.
Et voilà. Fait qu'on s'est tous rassemblés autour de Tetris et on espère que vous aussi, vous avez apprécié ça. Et on se retrouve dans un mois pour un autre épisode de Jeux Explique où est-ce qu'on va décortiquer pour vous un autre phénomène très connu du gaming ou de la culture geek, histoire de faire l'éducation de monsieur et madame tout le monde, parce que veut pas, la scène gaming et l'industrie du geek maintenant vraiment est de plus en plus présente. On le voit avec les succès des films Marvel et vraiment la montée des Ubisoft de ce monde. Et c'est pas tout le monde qui sait un peu tout ce qui s'est passé. Fait que nous autres ici, on a une mission de vulgariser tout ça. Puis pour notre public habituel de Pays sur Start, on essaye de glisser ici là-dedans quelques faits inusités que peut-être vous ignoriez. Puis au pire des pires, ben on a notre place au théâtre qui, on espère, vous fera sourire au moins un peu.
On devrait gagner un Oscar pour ça.
Toi, en tout cas. Moi, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis même pas capable de faire l'accent russe. Là-dessus, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup et bonne partie de Tetris.
Ah, bye-bye.
Cet épisode de Jeux Explique a été préparé et animé par Christine Lemousse et André Péloquin. Le montage et la réalisation assurés par l'incroyable Philippe Séguin et c'est une production Cube Radio.